Et la notion de subjectivité n'est pas encore là, c'est surtout une notion médicale. C'est-à-dire, est-ce que les soins de support améliorent la prise en charge médicale? Ensuite, en 1993, on a la définition de l'OMS qui dit « la qualité de vie est définie comme la perception qu'un individu a de sa place dans la vie, dans le contexte de sa culture et du système de valeurs dans lequel il vit. » Donc c'est aussi en fonction des pays, de la religion, de l'histoire, de l'histoire familiale. Voilà, c'est très subjectif. En relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Et nous, bien sûr, on a surtout les inquiétudes quand les personnes viennent nous voir. Ensuite, en 1996, la Société américaine d'oncologie prend conscience que prolonger la survie ne se fait pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que médicalement, on commence à parler d'acharnement thérapeutique ou pas. Et en 2003, on s'interroge plus généralement dans le monde sur certaines thérapeutiques agressives non curatives. Encore une fois, quid de l'acharnement thérapeutique. Ensuite, l'évolution de l'éthique fait que dans le plan cancer, vous pouvez aller le consulter, mesure 42-43, affirme que les soins de support visent à assurer la meilleure qualité de vie possible. Alors, ils disent patient, hein, je préfère dire personne, qui dira pourquoi dans 2 minutes, sur les plans physiques, psychologiques et sociaux à tout moment de leur vie. En 2010, on a enfin une évaluation de la qualité de vie faite par l'INCa pour le plan cancer 2009-2013. Et le 26 mai 2011, nous trouvons des conclusions après un suivi de 11 ans, donc depuis 2002, sur des personnes ayant eu un soutien psychologique dès le diagnostic, qui montrent pour des femmes suivies depuis 10 ans pour un cancer du sein, moins de dépression, moins de récidive, une mortalité toute cause réduite et en phase métastatique, 18 mois de survie supplémentaire. Le bénéfice semble supérieur pour les cancers de mauvais pronostic. Ça, c'est l'étude sur 11 ans. Je n'ai pas trouvé combien de femmes avaient été suivies. J'ai peut-être ce côté. Donc ensuite, c'est à chacun de définir sa propre qualité de vie. Donc c'est tout à fait subjectif et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. À chacun, selon son histoire, sa religion, son éthique, son environnement, son entourage, de savoir qu'on ne redeviendra pas comme avant. De toute façon, hier est hier, dans n'importe quelle vie humaine, mais qu'on peut retrouver une qualité de vie et de survie qui est un sens pour chacun d'entre nous. Donc nous, à l'association, on s'est saisi de ça, donc il y a 13 ans, pour offrir. Je préfère offrir que apporter, parce que on fait remonter de ce qu'on nous demande, enfin de ce qui... de ce que les malades peuvent nous faire. On a commencé par un groupe d'écoute et pas un groupe de parole. Parce que le Parisien était venu nous interviewer. Le journaliste du Parisien était venu nous interviewer et de nous dire, bon, alors vous faites venir les gens et puis vous les faites parler. Alors on a réagi, on a dit non, on n'est pas au commissariat avec la lampe. Les gens viennent et on les écoute, c'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est qu'une écoute préexiste à la parole. Il y a une personne qui est venue anonymement une fois, il y a des personnes qui viennent qui ne parlent pas, ça arrive, et bien on écoute leur silence, c'est-à-dire l'écoute préexiste à la parole de l'autre. Ça, je trouve que c'est très important, parce que ça ouvre un espace à l'autre, dont il va se saisir ou pas. Alors ensuite, évidemment, tous les soins de support qu'on propose maintenant, il y en a quasiment un tous les jours, hein, avec de la sophrologie, de la méditation, de l'art-thérapie, de la gymnastique, quelqu'un voulait la musicothérapie. Enfin, vous avez vu sur l'agenda, vous verrez sur le site, hein, tout ce qu'on propose. Aussi un groupe de parole pour les proches, parce que les proches morflent beaucoup. Et souvent, ils sont en arrière-garde, c'est-à-dire ils sont pas au front. Donc, ils n'osent pas dire qu'eux aussi souffrent. Mais en tout cas, il y a une prévalence de maladies somatiques chez les proches qui est tout à fait représentative de la souffrance qu'ils n'osent pas exprimer ou qu'ils ne peuvent pas exprimer, parfois par manque de temps ou parce qu'ils pensent que c'est leurs proches qui souffrent le plus et donc eux n'ont pas le droit de s'exprimer. Parce qu'ils ont ils continuent à travailler, continuent à s'occuper des enfants, ils continuent toute leur vie habituelle. Et du coup, c'est une charge émotionnelle, affective, financière souvent aussi, parce que la maladie cancéreuse est une maladie qui paupérise. Ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que le 100%, c'est très bien à l'hôpital, mais ça l'est beaucoup moins quand on a besoin de soins supplémentaires. Et on en a toujours besoin. Voilà. Alors, je reviens sur le mot patient de tout à l'heure. Nous avons deux médecins dans la salle qui ne sont pas qui sont expérimentés. Et de leur temps, enfin du temps un peu avant, on parlait de malades, mes malades, ils disaient mes malades. Maintenant, on entend tous depuis 20 ou 25 ans dire les patients. Qu'est-ce que c'est qu'un patient étymologiquement? C'est un objet. En linguistique, en philosophie et en tout ce que vous voudrez, c'est un objet. Alors que nous, à l'association, et d'une façon générale, les médecins d'avant, avaient des malades, c'est-à-dire des personnes à qui arrivait une maladie dans leur histoire, mais qui restaient sujets d'eux-mêmes. À l'heure actuelle, et tout à l'heure, la discussion que vous avez eue peut-être sur la médecine moderne, et peut-être on en sait quelque chose quand on se reçoit entre médecins, c'est que la médecine moderne, c'est quelque chose d'assez effrayant, et pour les malades et pour les médecins. Alors, il y a aussi des avancées, d'autres avancées. On a un médecin ce soir qui va nous parler différemment. Mais le patient objet, c'est compliqué pour lui, c'est-à-dire que devant le bureau du malade, qui est-il ?
Du médecin.
Du malade devant le bureau du médecin, qui est-il ? Est-il encore lui-même ? Est-il devant un sachant mieux que lui, alors que finalement lui seul sait sur lui ? Réfléchissez à cette position. Suis-je une personne malade, pour ceux qui ont traversé la maladie ou la traversent encore, ou suis-je un patient, c'est-à-dire un objet pour le monde médical, en tout cas. Voilà, alors je voulais aussi dire deux mots sur le temps, les temps, hein, parce que effectivement on est tous affectés par Chronos, hein, qui mange ses enfants, donc il nous mange, qui nous fait vieillir et mourir. Mais n'oubliez jamais qu'il existe Kairos, qui est le temps du moment favorable, du moment opportun, et qu'il faut saisir. Et donc, il lui aussi a son mot à dire dans notre qualité de vie. Saisir le moment où on est au port, hein, opportun, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui nous ressemble, qui nous va bien, qui est un lieu sécur pour nous. Saisir Kairos plutôt que de se laisser bouffer par Chronos. C'est pas toujours simple. Alors, les soins de support, c'est aussi. Alors, on a développé pas mal de soins de support donc, au cours de ces 13 années, à commencer par l'écoute de la personne malade, et ensuite par ce dont il pourra se saisir dans l'association, ce qui lui ira le mieux comme atelier, avec des professionnels. Des bénévoles en compétence, c'est-à-dire des professionnels dans leur domaine, et qui sont à moitié rémunérés par rapport à ce qu'ils prendraient en cabinet libéral. C'est-à-dire qu'ils font un demi-bénévolat, mais parce que j'estime, l'équipe a estimé que c'était des gens qui avaient fait des études, qui étaient professionnels, à qui on pouvait faire confiance, et que c'était important aussi de les rémunérer. Donc les médecins. Alors on parle de soins de support, ce soir on va aussi parler de médecine complémentaire, alors à ne pas confondre avec des médecines alternatives. Et on a fait d'ailleurs, je vous renvoie au site où on a fait il y a quelques années une soirée sur le charlatanisme dans la médecine avec le sénateur, je ne sais jamais si c'est Milon ou Milin, si quelqu'un le sait, qui avait fait une étude, les sénateurs s'étaient penchés dessus, une équipe de sénateurs qui s'était penchée dessus, il y a trois bouquins gros comme ça. Et effectivement, il y a des choses absolument rédhibitoires dans les médecines dites alternatives, qui est du charlatanisme, c'est-à-dire avec les trois critères, je te pique tes sous, je t'interdis de voir ta famille et tes amis, et tu n'as plus besoin des traitements habituels. Voilà. Donc si vous rencontrez ça, sauvez-vous. Parlez-en à votre médecin, venez en parler avec nous, mais surtout, je te pique tes sous, je t'interdis de voir ta famille et tes amis, enfin, petit à petit, hein, bien sûr, c'est beaucoup plus sournois que ce que je viens de dire, et tu n'as plus besoin des traitements habituels, donc sauvez-vous. On a eu un monsieur qui avait des petits sachets de poudre de perlimpinpin pour 900 euros, qui allait le guérir. Sa femme a mis le holà, il est venu me voir, on s'est expliqué, ça fait une dizaine d'années, ça fait 15 ans de ça, et il va bien. voilà, donc je parlerai deux minutes des proches. Je disais qu'il y a statistiquement une prévalence sur les maladies somatiques chez les proches, hypertension, ulcère, vous savez, la fatigue, quitter son boulot, burn-out, etc. Enfin, tout ce qui peut affecter le proche, tout ce qui peut physiquement et affectivement affecter le proche. Et donc, on a aussi développé ce volet de soins de support pour les proches. On sait aussi que les médecins sont en première ligne et parfois démunis devant des cas familiaux très lourds. Donc on peut prendre en charge aussi les familles à domicile, c'est-à-dire le père, la mère, la femme de ménage, le chien, le poisson rouge, les enfants, à domicile, c'est-à-dire dans... Alors le domicile, c'est l'adresse du malade. Moi, je préfère dire dans le chez-soi du malade, là où il a construit sa vie et son intimité. Donc on est quelques psys à être formés au chez-soi du malade, c'est-à-dire à pouvoir aussi parler au chien, à la femme de ménage, au mari, au poisson rouge, parce que c'est important que la famille soit vue parfois dans sa globalité, quand il y a des enfants, quand il y a des familles recomposées aussi, c'est-à-dire on peut aller dans les deux familles, quand il y a des familles recomposées, on prend tout ce qui se présente, on s'adapte. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Ah si. On a développé depuis 5 ans une réunion d'endeuillés, parce que malheureusement, on a quand même aussi des familles endeuillées. On a aussi des enfants endeuillés. Donc on a une psychanalyste pour enfants qui a pris sa retraite et qui peut les prendre en charge, donc dans notre local et non pas en cabinet de psy, parce que le gamin, il n'est pas psy, il est juste en deuil ou il est juste affecté par la maladie de son père ou de sa mère. Donc on veut rester dans la ville, dans la famille, le plus possible, là où les gens ont leur repère. Et donc cette réunion d'endeuillés fonctionne depuis, je ne sais plus, 4 ans maintenant, quelque chose comme ça. Ça fonctionne bien, les gens sont contents de se réunir et de pouvoir partager leur deuil. Alors, il faut savoir que, évidemment, chaque deuil est différent. Chaque deuil s'inscrit dans l'histoire de la personne, avec ses facultés affectives aussi de pouvoir aborder ce deuil. dans la mesure où on fait souvent des... Enfin, on fait souvent. Quand on a besoin de le faire, on fait l'accompagnement à domicile des malades juste en fin de vie s'ils le souhaitent. Et ça permet de travailler ce qu'on appelle le travail du trépas. Parce qu'on parle beaucoup du travail de deuil pour les gens qui restent, mais on ne parle pas beaucoup du travail du trépas, qui est un travail que la personne doit faire pour quitter. Pour quitter. Je dis quitter parce qu'on ne sait pas ce que la personne veut quitter, enfin doit quitter, tous les attachements se défont. Et du coup, la personne endeuillée qui a accompagné avec nous le trépas de son proche va commencer un deuil beaucoup moins difficile. Et puis alors on a aussi mis en place une supervision de soignants pour que les médecins, les psys, les infirmières, les kinés puissent venir parler et se décharger parfois de cas un peu lourds ou difficiles et en parler ensemble. Voilà. Donc tous les otages de la maladie sont pris en compte par notre association. Voilà, je vous remercie.